VO Afrique.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Le monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du mardi 18 octobre 2022. Bonjour à toutes et à tous. En direct de Washington, Idrissa Segoudia. Tout d'abord, les titres. Prochaines élections à RDC, processus mal embarqué, alerte des chercheurs. Sanctions américaines contre 14 personnes accusées de lien avec les Chebabs somaliens. Guerre au Tigré, le secrétaire général de l'ONU s'alarme d'une situation incontrôlable en Éthiopie. Ouganda, après des tweets polémiques, le fils du président Museveni privé de Twitter sur les affaires du pays par son père. Ukraine, des installations électriques touchées par 3 frappes à Kiev. Karim Benzema, sacré ballon d'or, et Sadio Mané, premier prix Socrates du footballeur engagé. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal. À un peu plus d'un an des prochaines élections prévues fin 2023 en République démocratique du Congo, des chercheurs s'inquiètent d'un processus mal embarqué et d'un déficit de confiance porteur, selon eux, de risques de violentes protestations des acteurs sociopolitiques. Nanit Talani.
La RDC risque de rater l'opportunité de remettre son processus électoral en ordre, écrivent les organisations GEC, groupe d'études sur le Congo, et Ebouteli, liés à l'Université de New York, dans un rapport publié mardi, intitulé « Élections à l'ère de Tshisekedi, un mauvais départ ». À 14 mois de l'échéance de fin 2023, les intérêts politiques ont fini par étouffer l'élan de rupture. La méfiance envers les animateurs de la CENI, Commission électorale nationale indépendante, demeure, et les renouvellements controversés des membres de la Cour constitutionnelle, dernier verrou du processus électoral, renforcent davantage le déficit de confiance, estiment notamment les analystes. Selon eux, la mainmise politique persiste sur les institutions impliquées dans la gestion du processus électoral. Les chercheurs craignent le spectre du glissement du calendrier électoral et ses conséquences éventuelles. La priorité des parties prenantes devrait être, selon eux, la quête de la confiance dans le processus électoral, à commencer par la CENI elle-même.
L'administration Biden a pris des sanctions contre 14 personnes accusées par Washington de lien avec les insurgés islamistes d'Al-Shabaab opérant en Somalie. Eric Manirakidza.
6 des personnes ciblées, notamment Abdoulaye Djeri, Khalif Adale et Hassan Afgoye, appartiennent à un réseau de financement et de trafic d'armes opérant en Afrique de l'Est au profit d'Al-Shabaab, a fait savoir Brian Nelson, sous-secrétaire américain au Trésor chargé de la lutte contre le terrorisme et du renseignement financier dans une déclaration. Les sanctions qui incluent un gel des avoirs sous contrôle américain visent 3 membres d'un autre réseau de trafic d'armes établi, cette fois-ci au Yémen et opérant toujours pour le compte d'Al-Shabaab. Par ailleurs, 5 responsables d'Al-Shabaab, parmi lesquels Mohamed Mir et Yassir Jis, tombent eux aussi sous le coup des sanctions américaines visant les terroristes et leur soutien. Nous continuerons d'agir contre les trafics d'armes et les activités de levée de fonds d'Al-Shabaab et autres affiliés, a déclaré le sous-secrétaire américain au Trésor, chargé de la lutte contre le terrorisme et du renseignement financier.
En Guinée, un opposant à la junte au pouvoir a été arrêté lundi à Conakry par les gendarmes qui l'ont conduit vers une destination inconnue, indique son parti. Selou Baldé venait de sortir d'une réunion dans la banlieue de Conakry, a affirmé à l'AFP Mamadou Malado Diallo, trésorier national de l'UFDG, de l'ex-premier ministre Selou Dalène Diallo. Aucune confirmation de son arrestation n'a pu être obtenue auprès de la gendarmerie. La situation devient incontrôlable en Éthiopie, selon le secrétaire général de l'ONU. Hier lundi, Antonio Guterres a réclamé la fin des hostilités dans la région du Tigré. Yacouba Ouedraogo.
La violence et la destruction atteignent des niveaux alarmants en Éthiopie, ce sont les mots d'Antonio Guterres, qui ajoute qu'il n'y a pas de solution militaire au conflit. Le secrétaire général des Nations Unies met en avant les attaques au hasard qui tuent des civils chaque jour, les centaines de milliers de personnes déplacées à cause des violences et les témoignages perturbants de violences sexuelles et d'autres actes de brutalité contre les femmes, les enfants et les hommes. Selon des sources concordantes, le Tigré est pris en tenaille entre une offensive conjointe des armées éthiopiennes et érythréennes depuis l'Érythrée au nord et les troupes éthiopiennes aidées des forces des régions voisines de l'Amara et de l'Afar au sud. Antonio Guterres soutient qu'en raison des affrontements, l'aide humanitaire vers le Tigré est suspendue depuis 7 semaines. Il demande à toutes les parties de permettre le passage des convois humanitaires, appelant à une reprise urgente des discussions. Le gouvernement éthiopien dit être disposé à des pourparlers de paix, tout en affirmant poursuivre ses opérations militaires au Tigré. Les rebelles tigréens assurent être prêts à respecter une cessation immédiate des hostilités.
En Ouganda, le président Yoweri Museveni a déclaré lundi que son fils ne tweeterait plus sur les affaires du pays après une série de tweets polémiques début octobre dans laquelle il avait notamment menacé d'envahir le Kenya. Les propos peu amènes du général Muhoozi Kainerugaba, fils aîné âgé de 48 ans du chef de l'État, avaient offensé le voisin kényan. Il avait notamment suggéré qu'il lui faudrait, à lui et son armée, pas 2 semaines pour s'emparer de la capitale kényane, Nairobi. Toujours en Ouganda, des médias et des associations de défense des droits de l'homme ont saisi lundi la Cour constitutionnelle pour tenter d'invalider une nouvelle loi visant, selon eux, à restreindre la liberté d'expression sur Internet et à museler l'opposition. Jean-Roger Bion.
Le recours contre la loi sur l'usage abusif de l'informatique promulgué le 13 octobre par le président Yoweri Museveni, qui dirige le pays d'une main de fer depuis 1986, a été déposé par 13 requérants. Cette loi menace la liberté d'expression et cible ceux qui ont des points de vue divergents, a déclaré Norman Tumuyimbise, un des plaignants et employés de Digital TV qui avait été perquisitionné au mois de mars. 9 employés de cette chaîne en ligne, parmi lesquels M. Tumuyimbise, sont inculpés notamment pour diffusion de fausses informations. Amnesty International demande l'abrogation du texte. Cette loi, écrit l'ONG des droits humains dans un communiqué, a été conçue pour cibler délibérément les critiques du gouvernement et sera utilisée pour faire taire la dissidence et empêcher les gens de s'exprimer. Elle menace le droit à la liberté d'expression en ligne, y compris le droit de recevoir et de diffuser des informations, sous prétexte d'interdire les informations non sollicitées, fausses, malveillantes, haineuses et injustifiées, fait valoir Amnesty dans son plaidoyer.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici aux États-Unis, des procureurs du ministère de la Justice ont demandé hier à un juge fédéral de condamner Steve Bannon, conseiller de l'ancien président Donald Trump, à 6 mois de prison. Il a été reconnu coupable d'entrave à l'enquête du Congrès sur l'assaut du Capitole en janvier 2021 en refusant de répondre à son assignation à comparaître. Abdulrahman Dia.
Le ministère de la Justice estime que l'ancien officiel de la Maison-Blanche sous Donald Trump poursuivait une stratégie de mauvaise foi, de défi et d'outrage contre le comité d'enquête. Il connaîtra sa peine vendredi. Les procureurs ont déclaré au juge Carl Nichols que les actions de Bannon, y compris son refus de produire un seul document au comité du Congrès, les avaient conduits à recommander une peine de prison maximale dans le barème fédéral des peines. Ils ont également exhorté le juge à imposer l'amende maximale de $200,000 qu'ils ont fondé sur l'insistance de Bannon à payer cette somme plutôt que de coopérer avec les enquêteurs. Pendant toute la durée de cette affaire, l'accusé a exploité sa notoriété par le biais de conférences de presse au palais de justice et de son podcast pour montrer au public son refus basé sur la mauvaise foi de se conformer à l'assignation du comité. Un mépris total pour le gouvernement et la loi, ont écrit les procureurs dans leur mémorandum. Les avocats de Steve Bannon demandent une peine de liberté conditionnelle suspendue au résultat de son procès en appel ou à défaut de purger sa peine à domicile.
Des installations électriques ont été touchées mardi par 3 frappes à Kiev au lendemain d'attaques russes lancées avec des drones dans la capitale ukrainienne, a annoncé la présidence. Selon les premiers éléments, 3 frappes sur des installations électriques dans l'est de Kiev, a signalé un proche conseiller de la présidence ukrainienne dans un message posté sur un réseau social. Par ailleurs, Washington a menacé lundi de sanctionner les entreprises ou les États collaborant au programme de drones de l'Iran après les récentes frappes en Ukraine réalisées à l'aide de drones de fabrication présumée iranienne. Le Conseil de sécurité de l'ONU a débattu hier du possible envoi d'une force internationale à Haïti pour permettre à la population de sortir du cauchemar de la crise humanitaire et sécuritaire sans prendre des décisions sur cette option qui ne fait pas l'unanimité. La Minute Éco, Mohamedou Humpa.
La principale compagnie gazière du Nigeria a annoncé lundi avoir activé la force majeure à cause des inondations qui frappent le pays. La compagnie n'a pas précisé si ou dans quelle mesure les exportations à partir du terminal de Bonny Island, qui représente près de 10% des recettes d'exportation, seraient touchées à partir de ce pays, 6e exportateur de gaz naturel liquéfié au monde. La Banque de Kigali, le plus grand prêteur commercial au Rwanda, et Ant Group, un important fournisseur chinois de technologies de services financiers, ont lancé jeudi dernier un service de transfert de fonds instantané. Ce service permet aux expéditeurs au Rwanda de transférer des fonds de leur compte auprès de la Banque de Kigali vers le compte Alipay des destinataires en Chine qui le recevront en yuan, la monnaie chinoise. Au Cameroun, les activités d'exploitation forestière devraient fléchir entre octobre et décembre 2022. Cette baisse résulterait d'une météo peu propice à l'activité, des pluies qui dégradent les routes, souligne un document prévisionnel de conjoncture de la Banque des États de l'Afrique centrale. Les bois en grumes font partie des 6 principaux pourvoyeurs de recettes du pays, a observé l'Institut national de la statistique au cours du premier semestre 2022.
Merci Mohamedou. À présent, les sports avec Yakuba Ouedraogo. Yakuba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Sadio Mané entre un peu plus dans l'histoire du Ballon d'Or.
Oui, l'attaquant international sénégalais du Bayern Munich a terminé 2e du classement du Ballon d'Or, attribué hier au Théâtre du Châtelet à Paris. C'est le meilleur classement pour un joueur africain depuis le Ballon d'Or remporté en 1995 par le Libérien George Weah. Après avoir été champion d'Afrique avec le Sénégal, vice-champion d'Angleterre avec Liverpool, finaliste de la Ligue des Champions, Sadio Mané a aidé son pays à se qualifier pour le prochain mondial. L'ancien attaquant de Liverpool a aussi remporté le tout premier prix Socrates du footballeur engagé, récompensant son action au Sénégal pour l'égal accès des filles et des garçons à la pratique du football. Sadio Mané.
C'est d'où je viens, je connais la réalité de cette localité et je pense qu'ils en ont besoin, donc j'essaie de faire ce que je peux.
Prochain objectif pour Mané, réussir la Coupe du Monde avec les Lions de la Teranga.
Comme je l'ai toujours dit, la Coupe du Monde, c'est un tournoi qui fait rêver et qui m'a toujours fait rêver, même étant jeune. Et aujourd'hui, j'ai la chance de peut-être jouer dans un mois. Et avant tout d'abord, on va essayer de bien préparer, essayer de faire le maximum pour pouvoir rendre tout un continent fier.
Sadio Mané, attaquant du Bayern Munich.
Le ballon d'or est revenu à Karim Benzema.
L'attaquant du Real Madrid est devenu le premier Français depuis Zinedine Zidane en 1998 à atteindre cette consécration. C'est d'ailleurs Zidane, mentor et ancien entraîneur de Benzema au Real, qui a remis la récompense à son successeur français. L'avant-centre du Real a été sacré devant le Sénégalais Sadio Mané et le Belge Kevin De Bruyne, champion d'Angleterre avec Manchester City. L'équipe mancunienne se consola avec le prix du club de la saison. Benzema a quasiment tout gagné sur la saison 2021-2022. Ligue des champions et championnat d'Espagne en club, Ligue des nations en sélection, titre de meilleur buteur et de joueur d'Espagne en 2021-2022. Autre récompense, l'ancien attaquant du Bayern Munich, Robert Lewandowski, repart avec lui le trophée Gerd Müller du meilleur buteur de la saison.
Le Belge Thibaut Courtois, portier du Real, s'adjuge le trophée Yacine du meilleur gardien et l'Espagnol Gavi du FC Barcelone le trophée Copa du meilleur jeune joueur. Du côté du Ballon d'Or féminin, l'Espagnol Alexia Putellas a écrit une page d'histoire en devenant la première lauréate à conserver son trophée depuis sa création en 2018.
Merci Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Seydoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. L'attaquant international sénégalais du Bayern Munich, Sadio Mané, a terminé deuxième au classement du Ballon d'Or attribué hier au Théâtre du Châtelet à Paris. L'ancien attaquant de Liverpool a aussi remporté le tout premier prix Socrates du footballeur engagé, récompensant son action au Sénégal pour l'égal accès des filles et des garçons à la pratique du football. De son côté, l'attaquant du Real Madrid, Karim Benzema, est devenu le premier Français depuis Zinedine Zidane en 1998 à remporter le Ballon d'Or. Joint par Yacouba Ouédraogo, le journaliste sportif Amédine Sy, basé à Columbus, ici aux États-Unis, estime que ce sont des récompenses bien méritées.
Sadio Mané a honoré le continent africain 27 ans après George Weah, qui est le seul Africain à avoir remporté le Ballon d'Or. C'était en 1995. Sadio est donc le deuxième Africain à figurer sur le podium du Ballon d'Or, après avoir terminé en quatrième en 2019, l'année du sixième sacre de Messi. Donc le numéro 10 de l'équipe nationale du Sénégal a vraiment réussi un exploit, car il fallait le faire et il l'a fait, puisque ce qu'il vient de réussir, de grands footballeurs hein, africains ne l'ont pas réussi. Je veux parler de Samuel Eto'o, de Drogba, de Yaya Touré, etc. Mais il faut dire que c'est mérité, puisque Sadio a réalisé une saison époustouflante avec Liverpool, mais aussi avec le Sénégal, puisque non seulement il a joué la finale de la Ligue des Champions, même s'ils ont perdu avec Liverpool, il a gagné pour la première fois de l'histoire la Coupe d'Afrique des Nations avec le Sénégal, et il a été déçu parce que c'est lui qui a marqué le dernier pénalty qui a permis au Sénégal de remporter ce titre pour la première fois de l'histoire. Il a aussi marqué le dernier pénalty qui a permis au Sénégal de se qualifier pour la Coupe du Monde de football. Donc Sadio mérite cette deuxième place. Je pense qu'il a fait une saison époustouflante, Sadio Mané, et il fait honneur à l'Afrique, Yacouba.
Sadio Mané, aussi récompensé pour ses œuvres au Sénégal et notamment dans son village de Bambali.
Ah oui, Sadio Mané s'est aussi illustré en remportant le premier prix Socrates récompensant les footballeurs qui s'engagent dans les œuvres caritatives. Là aussi, c'est mérité puisque Sadio, on le connaît. Il a beaucoup fait dans le domaine social, notamment dans son village natal à Bambali où il a construit une école, un hôpital. Il a fait beaucoup de choses pour les jeunes Sénégalais, mais aussi les femmes, les enfants. Donc Sadio Mané mérite ce prix Socrates, et je pense que les responsables quand même du Ballon d'Or ont bien fait quand même de récompenser les joueurs qui s'illustrent dans le domaine social, puisque c'est important. C'est pas seulement le fait de jouer au football et de rentrer, mais aussi de partager. Et Sadio Mané, on le connaît très bien. Le social, c'est son domaine. Je pense qu'il mérite ce prix Socrates.
Et pour le sacre, bien sûr, très attendu, Amdine, Karim Benzema soulève maintenant son premier Ballon d'Or.
C'est un secret de professionnel. Benzema mérite amplement ce titre de Ballon d'Or, puisque Benzema a fait une saison, une très grande saison avec le Real, mais aussi avec la France. Je pense que son sacre est mérité, et il devient le cinquième Français à avoir remporté ce titre, après un certain Zinedine Zidane qui a été le dernier Français à remporter. Mais il faut dire que Benzema a très bien mérité son titre de Ballon d'Or.
Amédine Sy, journaliste sportif, joint à Columbus, ici aux États-Unis. Au Cameroun, des milliers de personnes ont protesté lundi contre les attaques séparatistes et les enlèvements dans les écoles et églises. Les manifestants ont exigé des informations sur le sort des dizaines de personnes, dont cinq prêtres catholiques, une religieuse et deux fidèles, enlevé le mois dernier dans une église située dans le sud-ouest du Cameroun, à la frontière avec le Nigeria. Le compte-rendu de Moki Edwin Kinzeka de Yaoundé, au Cameroun. La narration est de Jean-Roger Bion.
Des centaines de personnes ont pris la rue à Ebony, un village du district de Tombel, pour demander aux séparatistes d'arrêter de brutaliser, d'enlever, de tuer et de mutiler des civils. Le district de Tombel se situe dans la région du Sud-Ouest, l'une des deux régions que les groupes séparatistes veulent dissocier du Cameroun pour créer un nouvel État anglophone. Au cours des manifestations quotidiennes qui ont débuté samedi, les protestataires disent vouloir que toutes les écoles fermées par les rebelles soient rouvertes afin que les enfants puissent reprendre les cours. Parmi les otages dont les manifestants exigent la libération, figurent 5 prêtres catholiques, une religieuse et 2 fidèles, enlevés le mois dernier dans une église catholique de la ville de Nchang, dans le diocèse de Manfé. Le révérend père Anfri Tata Mbouyi est directeur de la communication de la Conférence épiscopale nationale des évêques catholiques du Cameroun.
Des hommes armés ont demandé de l'argent et l'évêque de Manfé, Monseigneur Aloysius Abangalo, n'a pas cet argent qu'il demande. Et même s'il l'avait, je me demande si nous avons atteint un point où l'Église devrait donner de l'argent comme rançon.
Selon M. Mbouyi, l'Église n'a pas organisé les manifestations, même si plusieurs centaines de chrétiens y ont pris part. Le gouvernement camerounais affirme que les protestations ont lieu dans les villes et villages anglophones, notamment à Kumbo, Oku, Esso, Aoum, Kumba et Manfé. Le gouvernement dit aussi avoir ordonné aux militaires de protéger les manifestants. Capo Daniel est l'adjoint au chef des forces de défense d'Ambazoni, l'un des principaux groupes séparatistes. Il accuse le gouvernement d'organiser les manifestants pour donner l'impression que les habitants se révoltent contre les rebelles.
Nous avons vu des intrus corrompre certains combattants d'Ambazoni pour amener les populations à se soulever et à organiser ce défilé de propagande appelant au désarmement des forces d'Ambazoni et au soutien de l'État camerounais. Nous enverrons nos forces dans ces régions pour enquêter et toute personne qui organise de telles manifestations de trahison sera traduite en justice.
Les manifestants disent qu'ils comptent sur les troupes camerounaises pour assurer la sécurité de tous les civils. Yaoundé a répondu n'être en rien impliqué dans l'organisation des manifestations. Les civils assurent que leurs communautés ont organisé ces manifestations contre les séparatistes qui torturent les civils alors qu'ils prétendent les protéger.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
En République centrafricaine, la pénurie de carburant dans les stations-service a favorisé la montée du commerce illicite des hydrocarbures. Plusieurs points de vente de l'essence sont créés dans les quartiers. Conséquence, des incendies deviennent fréquents dans la capitale. De Bangui, notre correspondant Freeman Sipila.
C'est depuis le mois d'avril que la République centrafricaine vit la crise de carburant la plus rude de son histoire. La société de stockage du carburant n'en dispose plus. Du coup, les stations-service manquent d'hydrocarbures, créant ainsi une pénurie sans précédent dans le pays. Face à ce manque, le commerce illicite prospère et envahit les grandes villes. Hamat prospère dans ce commerce depuis le début de la pénurie.
Le carburant que nous vendons nous aide vraiment à trouver un peu d'argent pour pouvoir survivre avec. L'idée, comme vous voyez, les stations de nos jours qui ne vont plus vendre le carburant. Tout prétexte qu'ils veulent augmenter le prix. Nous, on fait de notre mieux pour pouvoir trouver le prix que nos frères nous amènent ça vers Cameroun. On achète auprès d'eux et après, nous, on revend.
À l'exemple d'Ahamat, de nombreux jeunes centrafricains se sont lancés dans ce commerce, foulant au pied toutes les précautions nécessaires au stockage. Certains vendeurs gardent des centaines de litres d'essence à la maison. Conséquence, plusieurs incendies se sont déjà produits dans la capitale. Face aux dégâts matériels importants causés par ces incendies, l'inquiétude monte parmi les banguissois.
Ce que l'État doit faire, c'est de sécuriser le secteur informel. Les gens qui exercent dans ce domaine n'ont pas d'autre solution. Ils sont obligés maintenant de se lancer dans ce genre de business.
C'est un pays où il y a le désordre généralisé. Les gens ne font pas leur travail et pour la population, c'est dommage.
C'est un dépôt prend feu. Les maisons qui sont à côté peuvent aussi prendre feu.
Boris Gondamouyen est expert en sécurité incendie. Il a récemment organisé une formation sur la thématique à Bangui. Il s'inquiète lui aussi.
On ne peut pas stocker du carburant chez soi, c'est comme le gaz. Le carburant, s'il brûle, il va faire des dégâts. Et le feu, quand il y a un incendie, l'incendie ne reste jamais sur place. Il y a une propagation. Donc, qu'est-ce qui se passe s'il y a des dégâts collatéraux?
Puis, entre une forte demande en raison de la fermeture des stations-service et une réglementation obligatoire de la vente, le gouvernement appelle à une prise de conscience générale. Arthur Bertrand Piri, ministre de l'Énergie.
Le comité de lutte contre la fraude des importations frauduleuses des hydrocarbures va véritablement sévir, je répète, force reste et demeure à la loi et ceux qui se livrent à ces activités, ils n'ont qu'à se rapprocher du département.
En attendant, la pénurie perdure et le commerce illicite des hydrocarbures prend de l'ampleur. Selon une source du ministère de l'Énergie, cette crise est due à la guerre en Ukraine et à un manque de consensus entre le gouvernement et les marketeurs sur une demande de baisse des taxes et d'augmentation du prix du carburant à la pompe. Freeman Sipila, Bongui pour VOA.
Avec vous dans Washington Forum cette semaine, le 20e congrès du Parti communiste chinois et les ambitions de Xi Jinping pour la Chine. Alors qu'il veut doubler le PIB de son pays d'ici à 2035 et faire de la Chine la première puissance mondiale d'ici à 2049, il revendique son rôle de contrepoids face à l'Occident, États-Unis en tête. Xi Jinping a aussi réitéré son ambition de ramener Taïwan dans le giron chinois de façon pacifique, mais n'exclut pas la force. Comment analyser les ambitions de la Chine dans le monde? Rendez-vous ce jeudi à 19h temps universel sur VOA Afrique et voafrique.com et en rediffusion samedi et dimanche.
Ouverture dimanche du 20e congrès du Parti communiste chinois, il devrait se terminer par la consécration de Xi Jinping, presque sûr d'un troisième mandat, comme le plus puissant dirigeant de la Chine depuis Mao Tse-tung. Promettant le retour de Taïwan dans le giron chinois, le président Xi a réitéré l'objectif de son pays de devenir la première puissance mondiale d'ici 2049. Pour une analyse, Abdulrahman Dia a joint ici dans la région de Washington Paul Nantulia, chercheur à l'Africa Center for Strategic Studies.
Donc, en ce moment, ce que vous avez aussi bien en termes de structure constitutionnelle, la structure du système politique, ainsi que sa position formelle en tant que secrétaire général du Parti communiste, étant donné que la limitation des mandats a également été supprimée, tout cela fait de lui la figure la plus puissante de Chine depuis la création de la République populaire de Chine en 1949. Donc ce congrès particulier est extrêmement important à cet égard.
Comment expliquez-vous, disons, sa puissance renforcée, ses pouvoirs renforcés?
Il continue en tant que président du comité militaire central. À ce titre, il est le seul commandant de l'armée populaire de libération, qui est la plus grande force de défense au monde, et il continue dans cette position très bien ancrée, et le changement de leadership que nous verrons probablement à la sortie de ce congrès, des chefs militaires qui seront effectivement sélectionnés par Xi Jinping. Deuxièmement, il va continuer avec des mandats illimités en tant que secrétaire général du Parti communiste chinois. Maintenant, c'est la position la plus puissante en Chine. Le poste de président des États est essentiellement cérémoniel et c'est vraiment symbolique.
Paul Nantulia, la Chine veut être première puissance mondiale d'ici à 2049. Sur quoi va-t-elle s'appuyer? Vous pensez que c'est possible?
C'est un objectif politique de base que tous les gouvernements chinois ont poursuivi depuis Mao Zedong et sous Mao Zedong. Ce qui s'est passé sous Xi Jinping, c'est qu'il a essentiellement accéléré ces deux fronts.
Est-ce que le discours avec des mots assez durs concernant Taïwan entre un peu dans ce sens?
Donc, si Xi Jinping et ses collègues du Parti communiste nous ont donné une date de 2049 à laquelle ils espèrent atteindre cet objectif de restaurer la Chine en une grande puissance, alors on peut logiquement en déduire que la question de la réunification de Taïwan est à résoudre d'ici 2049 du point de vue du Parti communiste chinois.
Defense and military analysts
Et c'est la raison pour laquelle les analystes militaires expriment leur inquiétude parce que vous ne pouvez pas exclure l'usage de la force afin d'incorporer Taïwan dans la Chine continentale. C'est donc la raison pour laquelle cela suscite beaucoup d'inquiétudes, non seulement aux États-Unis, mais à l'échelle internationale.
So this is the reason why it's creating a lot of concern, not just in the United States, but internationally.
C'était Paul Nantulia, chercheur spécialiste de la Chine. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde. Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi au micro Idrissa Segudia, à la mise en onde de Lionel Ronanira Gaïma, à la console Kelvin Fowler. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée à l'écoute de VOA.